18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est En deux noirs, une émission donc sur l'actualité du polar. Comme vous avez pu le remarquer, si vous êtes des fidèles auditeurs, on a repris notre générique de l'an dernier parce que nous recevons ce soir au téléphone François Guérif et que Nick Cave est un de ses groupes, enfin Nick Cave et les Bad Seeds est un de ses groupes préférés. Donc voilà, c'était pour lui faire plaisir en même temps. Et donc je pense que
et puis reprendre une ambiance qu'on aime
voilà,
beaucoup.
Qu'on aimait beaucoup. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Steady. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am. And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn to Stagger Lee. He said, well, bartender, it's a plain to see. I'm the bad motherfucker called Stagger Lee. Mr. Stagger Lee. Well, the barkeeper said, dear, I heard your name down the way. And I kick motherfucking asses like you every day. Mr. Stagger Lee. Well, I those were the last words that the barkeep said. Cause Stag put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. Yeah.
Allô, François Guérif, bonsoir.
Bonsoir.
On avait très envie de discuter avec vous pour parler un petit peu des 20 ans de cette collection Rivage Noir.
Oui.
Et puis aussi de Rivage Thriller et plus récemment Écrit Noir. Mais avant de parler de cette collection, on va un petit peu vous présenter. Donc, les débuts dans le noir et aussi dans la science-fiction et les bouquins de cinéma, c'est avec la librairie Le Troisième Œil ?
Oui, tout à fait.
C'était il y a quelques années, on va dire.
C'était il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, c'est une librairie mythique. Hein, tous les gens qui fréquentaient cette librairie en parlent encore avec des trémolos dans la voix. Et puis ensuite, vous avez publié donc des monographies de Paul Newman, Robert Redford, avant de vous entendre avec Maurice Périsset pour créer Red Label.
Non, alors, en fait, Maurice Périsset dirigeait chez PAC, un éditeur qui s'appelait PAC, une collection de livres de cinéma, qui était une collection de portraits de stars, donc c'est là où j'ai fait mes premiers livres, et les éditeurs, donc c'était pas Maurice Périsset m'avait quitté PAC assez rapidement, comme les livres marchaient bien, m'ont demandé si j'avais pas un projet d'édition, et je leur ai dit, si, il faut créer une collection de romans policiers.
Ça a été Red Label.
Et ça a été Red Label, oui.
Sans l'accent, excusez-moi. Pour.
Oui.
Donc 25 titres, si je ne m'abuse, à peu
Absolument.
Près.
Absolument.
Voilà, ensuite, Fayard Noir.
Oui. Et non, puis... d'abord... oui, Fayard Noir, vous avez raison, pardon.
C'est rien. Et puis ensuite, si je ne m'abuse, mais je peux faire plein d'erreurs, en 81, Engrenage International.
Tout à fait, oui.
Et avec des auteurs comme Jim Thompson ou Van de Wettering, qui sont maintenant des auteurs entre guillemets rivage, entre autres.
Tout à fait, oui.
Et donc en 86, après avoir dirigé déjà trois collections, vous créez Rivage Noir, donc chez Payot Rivage. Quels sont les principes qui ont prévalu à la création de cette collection ? Qu'est-ce que vous aviez envie de développer après ces trois premiers essais ?
Bien, en fait, c'était continuer un peu le même travail, sauf que, si vous voulez, bon, Red Label s'est arrêté parce que les éditions ont fait faillite. Fayard Noir s'est arrêté parce que Jean-Claude Lattès, qui venait d'être nommé directeur de chez Hachette, n'aimait pas le roman policier. Engrenage s'est arrêté parce que Engrenage français marchait pas très bien, et à l'époque, j'ai pensé que c'était terminé, quand le directeur de Rivage, Édouard Dandry, s'est venu me proposer de créer cette collection et de la diriger. Et en fait, j'ai pas dévié depuis Red Label. Je voulais à la fois faire deux choses. Je voulais publier les inédits des grands auteurs. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quasiment toutes les collections, Goodies, Burnett, Thompson, Jonathan Latimer, etc. Et en même temps, bien sûr, trouver mes propres auteurs. Mais là où c'était nouveau dans Red Label et que j'ai réussi à imposer et que tout le monde a repris, c'est que je ne voulais pas que l'on trafique les traductions, que l'on crée un soi-disant esprit collection, parce que le roman policier, il a beaucoup souffert de la standardisation. C'est-à-dire qu'à la fois, les collections qui ont été les plus grandes du roman policier, style la série noire, ont été vraiment des collections merveilleuses parce qu'elles ont révélé ces auteurs, mais en même temps, paradoxalement, elles ne traitaient pas ces gens-là comme des auteurs, puisque on leur coupait 50 à 80 pages, quand c'est pas 150 de leurs livres. Il y a qu'à voir le Grand Sommeil, pas le Grand Sommeil, The Long Goodbye, quand même 100 pages. Et en même temps, les traductions étaient arrangées dans un esprit collection. Et moi, j'avais dit, non, je veux absolument, et c'était des Red Label. En Red Label, par exemple, il y avait un livre qui faisait 140 pages, qui était Mort un dimanche de pluie, qui est maintenant chez Rivage. Et puis, il y avait un livre qui faisait 360 pages, qui était Crépuscule des Stars. Donc voilà, je voulais continuer le travail entrepris.
Voilà, donc éviter les textes tronqués. Et puis j'aimerais un petit peu insister là-dessus parce que je trouve que c'est un des travaux les plus importants de ces collections. Et ce qui se passe actuellement est littérairement très très intéressant, c'est la qualité des traductions.
Oui, c'est important. C'est important parce que vous pouvez trahir franchement ou du moins abîmer un texte avec une traduction qui non seulement si elle est tronquée, mais en plus même si elle est faite vite. Or, il faut savoir, c'est vrai que les traducteurs étaient pas très bien payés, c'est vrai qu'on leur disait que c'était pas de la littérature et que donc ils prenaient parfois des libertés avec les textes, ou simplement ils passaient à côté du vrai sens, et moi j'ai des exemples sans aucune polémique que je trouve pénible, si vous voulez. Par exemple, un auteur que je trouve magnifique et qui était un ami, qui était Robin Cook, je n'ai pas peur de dire que deux livres magnifiques qui sont « Il est mort, les yeux ouverts » et « Comment vivent les morts », eh bien, les traductions qui sont en série noire sont indignes du texte anglais.
Donc c'est vrai que maintenant on attache. Et donc, est-ce qu'on va utiliser plutôt des traducteurs professionnels, ou je sais que vous avez débauché un petit peu carrément des écrivains qui sont devenus, qui font de la traduction?
Oui, ce qui est important, c'est que la seule règle que je pense qu'il faut, c'est moi ce que je dis aux traducteurs tout le temps, c'est ne traduisez pas un livre si vous ne l'aimez pas. Parce que vous allez vivre avec pendant plusieurs mois, et j'ai eu un exemple comme ça, d'un bon traducteur qui m'a traduit un jour un livre, et bon, entendons-nous bien, le travail était très honnête, mais je lui ai dit à la fin, quand j'ai eu la traduction, je lui ai dit, je comprends pas, c'est drôle, je retrouve pas vraiment l'âme du livre, et il m'a dit, mais c'est un livre que j'aime pas, et je lui ai dit, t'aurais dû me le dire, parce que franchement, faut pas le faire. Donc oui, bien sûr, des écrivains peuvent être d'excellents traducteurs. Il y a aussi pas mal de traducteurs professionnels. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de garder souvent le même traducteur pour l'auteur, à partir du moment où il l'aime, où il se sent à l'aise dans ce monde-là.
Parce qu'il connaît bien son univers, ça doit participer à la qualité de la traduction.
Voilà, il y a ça. Et puis en même temps, nous, on a, je crois, introduit des choses. Par exemple, il est... Dans 80% des cas, ces auteurs sont décédés, mais dans 80% des cas, les traducteurs rentrent en contact avec les auteurs par email, ce qui fait que, si vous voulez, s'il y a une difficulté, parce que c'est vrai que parfois il y a des subtilités, il y a des renvois, par exemple, à des chansons ou à des moments politiques dans la vie d'un pays, et évidemment, on n'est pas tous obligés de connaître par cœur toutes les histoires. Et donc, dès qu'il y a une obscurité, souvent, ils rentrent en contact en disant qu'est-ce que ça veut dire, et voilà, quoi.
Oui, je pense en particulier à Pierre Bondil et Daniel, qui traduisaient, je crois, qui ont traduit Tony Lehrman, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'ils ont dû rentrer dans une culture et un univers qui est très loin du nôtre, et ça doit beaucoup aider de pouvoir être en contact. Une des particularités, donc, il y a 20 ans... La couverture qui changeait complètement. Comment cette couverture est née, s'il vous plaît?
Alors écoutez, ça c'est pour moi, j'estime avoir eu énormément de chance parce que je sortais du Fleuve Noir où si les livres étaient très propres à l'intérieur, très très bien fabriqués, trouvé que les couvertures étaient hideuses. Avec des grosses étoiles pour faire croire que c'était des quadruples volumes ou avec des dessins qui étaient pas très réussis.
On a connu des pin-up pires en plus.
On a connu aussi, absolument, oui. On a connu des périodes pires. Et là, écoutez, c'est la maquettiste de Rivage dont j'ai le plaisir de citer le nom, qui s'appelle Jacqueline Guiramant. On m'a proposé une maquette et cette maquette, c'est celle-là qui est restée. Et j'avoue que j'ai été absolument ébloui. Quand je l'ai vue. Et là où elle m'étonne et où je la trouve vraiment géniale, c'est que c'est vrai que au début elle s'était très attirante, en plus la qualité, le papier même de la couverture, enfin etc. Mais à un moment donné, je m'étais dit, ça va tourner, comment est-ce qu'elle va pouvoir se renouveler? Et en fait, on est à plus de 600 numéros et je trouve que ça marche toujours et qu'elle se renouvelle et qu'elle identifie parfaitement la collection. Et je crois que ça a été primordial pour le lecteur et pour le lancement de la collection, parce que très souvent, les libraires me disent que les lecteurs l'identifient immédiatement et trouvent que l'objet lui-même est beau.
Tout à fait, c'est un bel objet. Et peut-être allez-vous me détromper, mais je trouve que c'est d'autant plus important maintenant que le passage des livres en librairie est de plus en plus bref. Et que la couverture, c'est vraiment la première chose qui va attirer, avant peut-être même la quatrième de couverture, quoi, le premier. Et c'est vrai que ça a une élégance qui va bien avec cette collection. Alors, comment avez-vous choisi, on revient encore en 86, comment avez-vous choisi donc les quatre premiers titres? Il y avait un Jim Thompson, Charles Williams,
oui.
Jonathan Latimer, c'est oui. ça, et Joseph Hansen.
C'est ça.
C'est dur de choisir parce que vous aviez déjà plein d'auteurs, plein de livres par rapport à tout le travail que vous aviez déjà fait. Comment on bichonne ces quatre premiers titres là? Ça doit être...
Bien, symboliquement, je voulais absolument que ce soit Jim Thompson qui soit le numéro un de cette collection. J'en avais déjà publié chez Fayard et au Fleuve Noir. Et là, je voulais continuer les inédits. Donc je voulais absolument... Il se trouve que j'avais dans un coin de ma bibliothèque le premier roman de Charles Williams que je trouvais magnifique et aussi où j'avais pas compris qu'il n'avait pas été traduit, peut-être parce que c'est pas vraiment un livre policier. Le Jonathan Latimer, c'est une reprise de Red Label, donc ça aussi j'aimais bien que dans les quatre premiers il y ait un clin d'œil qui disait finalement au lecteur que c'était la continuation aussi d'un travail commencé 8 ans plus tôt.
Et puis en plus, vous aviez quand même un petit peu de chance, parce que si je ne m'abuse, c'est le Gardenia rouge.
Absolument.
Pour Red Label, c'était superbe.
Absolument.
Joli clin d'œil.
Oui. Et puis le quatrième, écoutez, c'est un peu comme ça que Rivage Noir est né. C'est parce qu'en fait, les éditions Rivage avaient acheté deux livres de Joseph Hansen. Et ils en avaient publié un. Ils avaient une collection de littérature étrangère. Ils en avaient publié un comme ça. Alors, ils ne voulaient pas le mettre dans la collection de littérature étrangère. Et en même temps, ça avait la même présentation. Et on m'a dit, quand on est venu me chercher, on m'a dit, justement, on s'est dit, ce livre-là, il est un peu perdu en librairie. Les libraires ne savent pas où le placer. Et on s'est dit, quitte à publier du policier, autant fonder une collection. Et donc, celui-là était déjà là. Mais moi, j'étais ravi, puisque j'avais lu les quatre ans de scène de la série noire. Je trouvais que c'était un auteur formidable.
Et puis, je pense qu'il y a aussi, ça permettait, je crois que ce que vous avez démontré depuis 20 ans, c'est d'élargir vraiment toutes les possibilités de ce genre littéraire fantastique et avec les romans noirs psychologiques. Et déjà là, dans les 4-5 premiers, il y avait déjà un spectre assez large, on va dire.
Absolument. Absolument, puisque La fille des collines n'est pas vraiment...
Voilà, n'est pas vraiment...
Et que ça, alors c'est vrai que c'est quelque chose, vous avez raison de le dire, c'est peut-être la chose dont je suis la plus fière, quand je disais tout à l'heure que les collections ne les traitaient pas comme des vrais auteurs, c'est qu'en fait il y avait plein de textes qui avaient été écartés dans les autres collections précédentes, parce que les directeurs n'avaient pas le choix, on leur disait c'est pas du polar. Et moi je disais à un moment donné, on va pas se priver... Par exemple, de La blonde au coin de la rue ou de La lune dans le caniveau de David Goudy, sous prétexte que c'est pas des polars. De toute façon, c'est du roman noir, bon, sans jeu de mots. Donc la notion d'auteur était primordiale. C'est-à-dire que c'est pas la notion de collection, c'était la notion d'auteur. C'est-à-dire que vous allez lire du Jim Thompson, vous allez lire du Charles Williams, vous allez lire du Goudy, etc. Et aujourd'hui, c'est tellement bien rentré dans les mœurs que quand... Alors j'avais créé Écrit Noir pour ça, à un moment donné, c'est que je voulais prévenir honnêtement le lecteur, dire, écoutez, ce sont les mêmes écrivains, mais le livre que vous avez entre les mains n'est pas un roman policier, au sens strict du terme. Il n'empêche que, bien sûr, quand il était question de passer ces livres-là en poche, je les ai mis en rivage noir. Et aujourd'hui, personne, enfin, en tous les cas, aucun lecteur ne s'est plaint d'avoir, au milieu d'une collection dite de romans policiers, les chroniques de Manchette, les mémoires de Howard Fast ou les mémoires de Robin Cook.
Que je recommande fortement, les mémoires de Howard Fast, hein, que vous avez réédité, si je ne m'abuse, l'année dernière, Mémoire d'un rouge.
Absolument.
C'est un livre absolument fantastique qui nous apprend beaucoup de choses sur l'Amérique et qui nous fait comprendre beaucoup de choses sur l'Amérique actuelle, je trouve.
Absolument.
Alors, spectre large, mais quand même, c'est pas du tout un reproche, mais parmi les 100 premiers titres, un seul français, Hugues Pagan.
Oui, bah écoutez, parce que j'ai publié, cela dit, le Hugues Pagan, il est le numéro 17, je crois. Mmh. Donc c'est un des premiers. Et alors là, il y a eu... un espèce de refus à cette époque-là. Et on m'a dit, mais écoute, pourquoi est-ce que tu fais ce que les autres font, alors que tu fais très bien d'autres choses tout seul que personne ne fait? Et il faut toujours garder en mémoire que dans l'histoire du roman policier, l'édition du roman policier en France, ces 20 dernières années, il y a eu des périodes très changeantes, très, très mouvantes. Et c'est vrai que quand j'ai créé Rivage Noir, ben, qu'est-ce qui se passait? Finalement, la série noire publiait beaucoup d'auteurs français. Albin Michel, Pagan était chez Albin Michel d'ailleurs. Mmh. Le Masque publiait beaucoup d'auteurs français. De Noël, la collection Soir Froide était quasiment exclusivement des auteurs français. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui publiaient les auteurs français. Et donc on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller débaucher, à la limite, des auteurs français, alors que tu es le seul sur le terrain des inédits, de Thomson, etc. Et je me suis dit, ben oui, c'est vrai, finalement, attendons. J'avais dit, même à l'époque, un peu, ça pouvait paraître prétentieux, j'avais dit, de toute façon, je publierai des auteurs français, mais je publierai mes auteurs, et pas ceux des autres. Et puis, quand Robert Soula est parti, que Patrick Reynal est arrivé à la série noire, Le Masque est d'un coup rentré dans une période d'éclipse, la collection Soir Froide de Noël s'est arrêtée, et donc, que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison là de se priver des auteurs français aussi. Oui, donc c'était pas du tout une volonté, et vous avez raison de le souligner, puisque même j'avais eu une critique assez insidieuse, je crois, dans le magazine du Mystère, ou Mystère Magazine, qui disait que la collection avait la volonté de ne pas publier d'auteurs français, ce qui était absolument faux. Les auteurs français étaient simplement les auteurs qui m'intéressaient publiés ailleurs, et moi alors j'ai toujours eu pour principe de ne pas aller... essayer de débaucher un coup de carnet de chèque les auteurs chez le voisin. Le plus important, c'est plutôt d'avoir des idées originales et de faire en effet quelque chose d'original.
Alors François Guérif, je vais vous faire une petite proposition, peut-être un petit peu malhonnête, mais il va être l'heure des informations et on a encore des tas de questions à vous poser. Donc est-ce que vous seriez libre dans 10 minutes à peu près pour reprendre cette conversation après les informations?
Ben, tout à fait, oui.
Alors on vous rappelle dans quelques instants et on a encore plein de questions à vous poser.
D'accord.
Merci beaucoup, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.